Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le mois de juillet étant traditionnellement consacré au culte du très précieux sang de Jésus, disons un mot sur un des aspects de cette dévotion. Notre Seigneur a, pour ainsi dire, condensé dans son sang tout son amour envers nous, pauvres pécheurs. Amour d'abord généreux. Certes, une seule goutte de sang divin aurait suffi pour effacer tous les péchés du monde. Mais les exigences de l'amour dépassent infiniment celles de la justice. Comme l'infini est la distance qui sépare la première goutte de sang répandue au calvaire de la dernière. La justice se serait contentée de la première. L'amour exigera la dernière. Amour généreux, se montrant dans l'effusion jusqu'à la dernière goutte du précieux sang. Amour aussi inventif, qui a le talent d'inventif, qui ne se contente de cette ultime gouttelette, qui inventa le moyen par lequel il continuerait de répandre tous les jours son sang, de rester ainsi avec nous jusqu'à la fin du monde, voire de nous mourir. Cette invention, c'est le saint sacrifice de la messe. C'était en 1263, à Bolsena, diocèse d'Orvieto, en Italie. Un prêtre, après avoir prononcé les paroles de la consécration, s'est mis à douter de l'efficacité de ces paroles. « Je ne vois rien », se disait-il à lui-même. « Je ne sens rien. Je ne m'aperçois d'aucun changement. Non, il n'est pas vrai que Jésus-Christ soit ici présent. » Cette hostie n'est que du pain. Et il continuait ainsi à dire la messe pendant plusieurs jours, malgré ce doute auquel il a pleinement adhéré. Quand, un jour, il élevait l'hostie après la consécration, le sang s'est mis à en couler comme une pluie. Facile à s'imaginer la frayeur de ce malheureux prêtre qui reste sans bouger, rempli d'émotion. Au milieu des clameurs du peuple, criant au miracle, le célébrant revient à lui-même, abaisse la sainte hostie, voulant la placer sur le corporal. Celui-ci étant tellement inondé de sang qu'à peine trouva-t-il une petite place pour reposer son Dieu. Le prêtre reconnaît sa faute, se repent sincèrement et continue la sainte messe avec tant de larmes qu'il doit s'arrêter plusieurs fois. Après la communion, il plia le corporal du mieux qu'il pouvait pour tenir le prodige en secret. Mais la messe terminée, les fidèles viennent voir le prêtre pour lui dire ce qu'ils ont vu. Le coupable était obligé de montrer le corporal. Le peuple, à la vue de ce linge encore imprégné du sang de Jésus, se jette à genoux, se frappe la poitrine, implore la miséricorde de Dieu. Bien sûr, chers fidèles, ce n'est pas seulement sur le miracle que s'appuie notre foi en la présence du précieux sang à la messe. L'Église en a parlé à plusieurs reprises, juste quelques exemples. Concile de Trente, dans un des chapitres sur la Sainte Eucharistie, dit ceci, je cite, « Dans l'auguste sacrement de l'Eucharistie, après la consécration du pain et du vin, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et homme, est contenu véritablement, réellement et substantiellement sous l'espèce de ces choses sensibles, c'est-à-dire sous les espèces du pain et du vin. Et plus loin, notre Rédempteur institua ce sacrement dans la dernière scène, lorsqu'après la bénédiction du pain et du vin, il déclara en termes clairs et précis qu'il leur donnait son propre corps et son propre sang. Fin de citation. D'ailleurs, saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, en parlant des dispositions à apporter pour la digne réception de l'Eucharistie, dit ceci. Celui qui mangera le pain ou boira le calice du Seigneur comme indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Saint Cyrille de Jérusalem, mort au IVe siècle, père de l'Église, appelle ceux qui communient des porte-Christ, puisqu'ils reçoivent en eux le corps et le sang de Jésus-Christ. Revenons encore au Concile de Trente. Dans le chapitre sur la transsubstantiation, il explique ce terme, je cite. Par la consécration du pain et du vin, se produit une conversion, cela veut dire un changement, de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et, ce qui nous intéresse, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Conversion que l'Église catholique, ajoute le Concile, appelle transsubstantiation. Saint Athanase y ajouterait, avant les invocations et les prières, c'est-à-dire avant les paroles de consécration, il n'y a que du pain et du vin. Mais quand sont prononcées les admirables prières, le pain devient corps et le vin sang de Jésus-Christ. Fin de citation. Sang qui ne reste pas statique, mais qui se répand. Sang vivant. L'agneau de Dieu, écrivit saint Jean Chrysostome, l'agneau de Dieu est immolé pour nous. Le sang coule mystiquement sur l'autel. Ce sang a été puisé au flanc percé du Sauveur et se déverse sur le calice. La messe renouvelle donc l'effusion mystique du précieux sang, mais à vrai dire, pourquoi? Quelle est son efficacité? Cette effusion est d'abord semblable à la transfusion. Transfusion, ça veut dire à cette opération par laquelle on fait passer du sang des veines d'un individu dans celle d'un autre. On lit parfois dans l'Ancien Testament que la vie de tout animal réside dans le sang. C'est le sang, en effet, qui, dans tout organisme, entretient et renouvelle cette vie animale. C'est lui qui diffuse, à travers tout le corps, les éléments nutritifs dont les divers organes ont besoin pour se refaire ou se développer. Pareillement, le sang de Jésus, à la messe, surtout s'il en communie, nous entretient, renouvelle, accroît nos énergies vitales. La vie corporelle du Christ, disait saint Bonaventure, la vie corporelle du Christ est dans le sang du Christ. Ainsi, notre vie spirituelle et éternelle est dans le sang de Jésus-Christ. Le précieux sang que nous recevons de la Sainte Eucharistie nous donne la vie. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il nous préserve aussi pour l'avenir des fautes graves, de ce qui nous prive de cette vie divine. C'est ce qu'affirme saint Thomas d'Aquin de sa somme. L'Eucharistie, dit-il, préserve l'homme du péché de deux manières. D'abord, nous unissant au Christ par une grâce toute spéciale, elle fortifie la vie spirituelle de notre âme à la façon d'une nourriture spirituelle et d'une médication salutaire. Autrement dit, de même qu'un aliment surabondant, qui est sain, qui est bio, qui est plein de vitamines, de protéines, permet à l'organisme de triompher des germes morbides, la Sainte Communion, nourriture vigoureuse, pain de vie, disons sang de vie, multiplie nos forces et nous fait vaincre les ennemis intérieurs de notre vie spirituelle, comme la concupiscence et les passions. Ensuite, pour expliquer comment l'Eucharistie préserve du péché, elle écarte les ennemis extérieurs, les esprits du mal. Parce que ce sacrement, comme dit saint Thomas, est le mémorial de la passion de notre Seigneur. Passion qui a vaincu l'enfer, qui a fait trembler les démons. Le précieux sang contenu dans la Sainte Communion nous communique le fort armé qui, devenu nôtre, nous prête sa puissance. Aussi bien, quand nous sortons de la table sainte, dit saint Jean Chrysostome, nous sommes devenus terribles pour le démon, comme des lions qui vomissent la flamme. L'Eucharistie nous préserve donc pour l'avenir des fautes graves. De plus, elle nous purifie de nos tâches quotidiennes, c'est-à-dire des péchés véniels, de ce qui diminue en nous la vigueur de la vie divine. Comparons cet effet au lavement des pieds de jeudi saint. Là, Jésus-Christ, on connaît l'histoire, se leva de table, se revêtit d'un linge, versa de l'eau dans un bassin et lava les pieds de ses apôtres. Pareillement, à la messe, il se lève de table, c'est-à-dire il quitte d'une certaine manière le banquet de la gloire éternelle, le ciel, se revêt de notre chair comme d'un linge, répand mystiquement son sang, comme l'eau fut répandue dans le bassin, et c'est dans ce sang qu'il nous lave les pieds tous les jours, en nous faisant trouver dans la Sainte Eucharistie la rémission de nos fautes. Conclusion. Nous avons vu au début que le motif principal de l'effusion du très précieux sang, effusion qui dépasse le temps et l'espace, au-delà de l'an 33 de notre ère et de la petite colline près de Jérusalem, ce motif de cette effusion, c'était et l'est toujours l'amour divin. L'amour qui demande, disons plus fort, qui mendie que notre réponse à cet amour soit aussi imprégnée d'amour. Aimer le précieux sang reçu de la Sainte Communion, c'est avoir d'abord en horreur ce qu'il a fait couler. C'est quoi? Le péché. Le péché qui a fait agoniser le doux Jésus jusqu'à la sueur du sang. Le péché qui déchira en lambeaux la chair innocente du Sauveur pendant la flagellation. Le péché qui le couronna d'épines, lui perça les mains, les pieds, lui ouvrit le côté. Ce péché, c'est notre péché tout d'abord. Pour les uns, ce serait l'orgueil, la paresse. Pour les autres, la colère, l'impureté, etc. Aimer le précieux sang, c'est aussi correspondre fidèlement à la grâce. C'est employer le temps à la gloire de Dieu et à la sanctification de nos âmes, tant souvent si facilement perdues devant les écrans. C'est correspondre aux saintes inspirations, c'est-à-dire à ces bons mouvements du cœur, à ces reproches de conscience, pour nous réveiller de notre assoupissement, soit pour nous engager à la pratique des vertus. Pour résumer, aimer le précieux sang, c'est avoir grand soin de ne pas laisser tomber à terre une seule goutte en gaspillant les grâces de Dieu. Que Notre-Dame, du sang de laquelle, sang pur, immaculé, notre Seigneur a tiré son sang très précieux, qu'elle nous aide à communier avec un amour généreux, avec un amour inventif. En du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.